Déclencheur Mini.
Une technique expliquée en quelques minutes seulement.
Salut Franck.
Bonjour.
Ça va faire pas très longtemps au final qu'on s'est parlé la dernière fois.
Bah oui, c'était pour le sujet sur la foudre.
Exactement, ça devient sympathique, le podcast devient de plus en plus participatif.
Ouais, c'est vrai que c'est une très bonne chose, ouais.
Toi, tu es vraiment fâché avec ton autofocus parce que tu nous avais déjà proposé un sujet sur la mise au point manuelle et là, tu voudrais qu'on fasse un petit sujet sur l'hyperfocale et son application pratique en photo familiale.
Ouais, voilà, exactement. C'est qu'en fait, j'ai constaté à plusieurs reprises que pendant des fêtes entre amis, par exemple, au moment où, bon, on n'a plus la lumière du jour, où l'ambiance est un petit peu plus sombre en intérieur, l'autofocus souvent patine. Et il a du mal à se caler sur le sujet. Et quand il a réussi à se caler sur le sujet, ben c'est le sujet qui a finalement changé d'attitude et on ne capture pas ce qu'on avait envie de capturer.
L'hyperfocale, bon, on a tous entendu parler, mais ça conjure cette image d'une formule mathématique compliquée, quelque chose d'assez prise de tête. Et en fait, c'est tout simple.
Ouais, c'est relativement simple. Pour rentrer un tout petit peu dans le détail, c'est une équation qui est pas bien méchante. C'est la focale de l'objectif, f au carré, divisé par la fermeture, multiplié par ce qu'on appelle le cercle de confusion, en fait la netteté qu'on recherche, quoi. On peut signaler que sur Internet, c'est très très bien expliqué, qu'il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes.
Concrètement, qu'est-ce que ça représente pour le photographe?
En ayant déterminé une hyperfocale par rapport au réglage de l'appareil, eh ben on va s'assurer d'une zone de netteté relativement importante, très proche du photographe et qui va jusqu'à l'infini. Quand on a fait ces réglages-là, il suffit juste de viser son sujet, d'appuyer. Dans la mesure où il n'y a plus d'autofocus, le déclenchement se fait instantanément. Et on est sûr d'avoir, sur toute la zone, une netteté relative.
Et pour situer un petit peu la chose, quand on achète ces petits appareils jetables dans les supermarchés ou autres, ils n'ont pas d'autofocus parce qu'ils sont réglés, justement, leur objectif est réglé sur l'hyperfocale. Donc net depuis 1,5 m, 2 m jusqu'à l'infini.
Et oui, voilà.
Sur les vieux objectifs, moi j'ai encore quelques vieux objectifs, tu as sans doute la même chose. Il y avait ces petites barres là qui permettaient justement de se caler en un instant sur l'hyperfocale.
Ouais. C'est vrai, ben maintenant on l'a plus, ça de toute façon. Ce que je reproche aux autofocus, c'est que de temps en temps, ils vont se mettre un petit peu à droite, à gauche, et au moins il y a de lumière, ben, au plus c'est aléatoire, quoi.
Il me semble avoir lu un appareil, je ne vais pas citer de marque parce que je suis plus sûr, mais dans un test quelconque, qu'il y avait justement une touche hyperfocale.
Ben ça, je suis pas au courant, mais par contre, je me renseignerai, ça m'intéresse beaucoup, quoi. Savoir au moins à quoi ça correspond.
Je trouve l'idée sympathique. Bref, concrètement maintenant, sur un appareil moderne donc, qui est dépourvu de ces petits marquages, comment est-ce qu'on fait?
La première des choses à faire, c'est de disposer d'un boîtier assez performant pour pouvoir supprimer tous ces automatismes, que ce soit la mise au point, l'exposition, et ensuite on procède à des réglages assez typiques, hein, il n'y a pas plusieurs réglages, il y en a quasiment qu'un seul, il y aura des essais à faire pour chaque boîtier, mais à partir du moment où on a trouvé son réglage, chaque fois qu'on est dans une soirée, on met ce réglage, on appuie sur le déclencheur, et la photo, normalement, est relativement exploitable.
Et le réglage?
Il se fait principalement sur le diaphragme qui doit être fermé au maximum en rapport de la puissance du flash. C'est-à-dire, plus on va fermer, plus le flash va avoir besoin d'être puissant. Si vous avez un flash pas trop puissant, il faudra peut-être un peu moins fermer. Mais c'est lui qui va déterminer en grande partie l'étendue de l'hyperfocale.
Oui, logiquement, puisque plus le diaphragme est fermé, plus la profondeur de champ est importante.
Voilà, ça se comprend assez facilement. Le deuxième paramètre, c'est la focale de l'objectif. C'est très très souhaitable pour plusieurs raisons de rester le maximum dans des focales très courtes. Déjà parce que vu qu'on n'a pas beaucoup de lumière, bien souvent on a un petit peu de mal à cadrer. Donc ça aide, on peut recadrer, on a des capteurs aujourd'hui qui permettent de recadrer facilement en post-traitement. Et surtout, une focale courte étend elle aussi énormément le champ de l'hyperfocale. Il y a ensuite le réglage de l'obturateur, hein, la vitesse d'exposition comme on l'appelle, qui doit être relativement rapide. Pourquoi rapide? C'est très simple, c'est parce que de toute façon la lumière va être fournie uniquement par le flash. Le flash c'est un éclair qui est très très rapide. Il vaut mieux éviter une vitesse lente parce qu'à ce moment-là on va prendre en considération aussi l'éclairage ambiant. Et on risque d'avoir ce qu'on appelle un flou de bouger. Ce sera dommage, c'est pas du tout ce qu'on recherche. Au niveau de la focalisation de la mise au point, parce qu'il faut quand même y venir, on va la faire entre le sujet et le photographe. En général, on se cale sur entre 50 cm et 1 mètre. Si le sujet est un peu éloigné, on va prendre 1 mètre. S'il est un peu plus près, on va mettre 50 cm. Jamais derrière le sujet, c'est tout ce qu'il faut savoir. Et on s'embête pas plus que ça avec la distance de mise au point.
Parce qu'effectivement, c'est le piège, puisqu'on va profiter de la profondeur de champ pour s'assurer que le sujet est net, on cale pas sur le sujet, on cale effectivement un petit peu en avant et on sait que c'est la profondeur de champ qui nous assurera la netteté puisqu'on est net jusqu'à l'infini en fait.
Et voilà, en fait on prévoit à l'avance où va se trouver le sujet, c'est pour ça qu'on se garde une petite zone de sécurité, on se met à peu près à entre 50 cm et 1 mètre et ensuite il y aura juste à déclencher, ce sera instantané. La sensibilité on la prendra maximale pour aider le flash, justement, pour ne pas avoir besoin de le pousser dans ses retranchements, évidemment dans les limites du bruit numérique. Hein.
Tu parles du flash parce que tu es dans la logique, effectivement, d'une utilisation de l'hyperfocale pour les événements familiaux, donc généralement en soirée à l'intérieur, là où on n'a pas beaucoup de lumière. Mais l'hyperfocale, on s'en sert aussi en photo de rue, on s'en sert dans d'autres cas de figure, où là, par contre, on fait une exposition en se basant sur la vitesse, on la fait traditionnellement, quoi.
Ouais, complètement, oui, c'est vrai, t'as tout à fait raison. Bon, moi, le sujet, il était orienté sur les soirées, parce que, en discutant avec pas mal de monde, je me suis rendu compte que c'était souvent le problème qui était rencontré. Mais c'est sûr que pour un reportage, c'est très pratique, l'utilisation de l'hyperfocale. Ça permet de déclencher immédiatement, et sans que l'appareil ait besoin de faire appel à l'autofocus, et donc de capturer le sujet tel qu'on l'a vu, tel qu'on le voit, tel qu'on le sent, au moment où on le sent, quoi.
Et les amateurs de Leica ajoutent même sans viser, puisque c'est une technique qu'on utilise beaucoup avec ce type d'appareil. Ils sont en hyperfocale, donc ils savent qu'ils seront nets, et ils orientent simplement l'appareil dans la direction du sujet pour ne pas justement montrer qu'on est en train de faire une photo, et pour ne pas perturber le sujet.
Et oui, ça implique quand même d'avoir à sa disposition une focale relativement courte pour couvrir un champ assez large et se permettre de recadrer par la suite, quoi.
Tout à fait.
Au niveau du flash, moi, j'aime pas trop le flash anti-yeux rouges, comme on l'appelle. Ce que j'apprécie dans le flash, c'est qu'il part immédiatement. De toute façon, les yeux rouges, ça se corrige très très bien. Le sujet, quoi qu'on en dise, il se crispe toujours au moment des premières secondes quand il prend 3 ou 4 flashs dans la figure. Moi, je déconseille fortement, d'autant plus qu'on recherche un déclenchement instantané, quoi. Donc, débrancher cette option.
Et puis, on peut aussi faire un flash indirect sur le plafond ou autre, ce qui fait qu'on n'a même pas de problème du rouge.
Oui, ça c'est très très bien. Bon, d'un autre côté, il faut disposer d'un flash qui puisse être directionnel. C'est pas toujours la grande majorité des appareils.
Et alors, pour cette technique JPEG, Goro ?
Bah, là, moi, autant je suis un grand amateur du RAW, autant pour cette technique exceptionnellement, je serais plutôt tenté de conseiller le JPEG. Pourquoi ? Bah, parce que c'est une technique qui s'adresse à des photos de copains-copines, pour des photos de soirée, on n'a pas forcément envie ensuite de perdre du temps au post-traitement, au développement du RAW, quoi. Donc, moi, je dirais, l'importance de la photographie dans ce cas particulier justifie pas le RAW, donc moi, je dirais JPEG.
Ouais, c'est marrant, moi, j'allais évidemment dire RAW.
Bah oui, je me trompe.
Puisque, mais bon, chacun a son point de vue là-dessus, mais le nombre d'amis qui m'ont déjà montré des photos faites dans une soirée où ils ont des problèmes qui se corrigeraient en quelques secondes en RAW et qui sont quasi insolubles parce qu'ils sont en JPEG et dès qu'on essaie de toucher à l'image, on a une montée de bruit ou on a une bascule de couleur, je me dis, ça vaut la peine aussi pour ces photos parce que parfois on a la chance de faire la photo où les gens se sentent bien, où ils sont décontractés, et après on regrette, je trouve, de pas pouvoir justement la finaliser. Et je trouve, et je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi là-dessus, mais je répète qu'avec les outils modernes, les softs modernes, on ne perd pas une minute à travailler en RAW par rapport à travailler en JPEG.
Bien sûr. Bon, moi je conseille le JPEG, ça n'empêche pas d'utiliser le RAW. Hein.
Chacun est libre, on est heureusement dans un état libre.
Ouais.
Franck, bah écoute, merci pour cette petite technique.
Bah c'est rien, non, merci pas, ça me fait toujours plaisir de participer à ce podcast, c'est vraiment sympa et j'encourage tous les autres auditeurs à en faire de même, s'ils ont
des astuces, des conseils, des petits trucs à partager.
Voilà, c'est ça, c'est toujours très sympa de t'avoir au téléphone en plus.
Merci, à bientôt.
À bientôt.
Déclencheur Mini, la photo comme vous l'avez jamais entendue.